Ben, je vous remercie déjà de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Fabien Davier, je suis enseignant. Je travaille à l'Université de Franche-Comté et ma spécialité, entre guillemets, c'est justement les origines chrétiennes, puisque j'ai beaucoup travaillé sur les pères de l'Église, et notamment un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Tertullien, hein, qui est un des pères de l'Église les plus connus, entre autres, parce que c'est le premier père à avoir pensé et écrit en latin, hein, parce que jusqu'à présent, le christianisme s'énonçait en grec. Alors, paradoxalement, vous voyez, on va aborder la question de la Palestine romaine, et au 1er siècle, et vous allez trouver ça un petit peu bizarre, mais je peux vous parler de Jésus. Alors, peux vous parler de Jésus, parce que l'idée donc de cette conférence est plutôt vous présenter un peu le contexte de cette Palestine au 1er siècle, en incluant quand même quelque chose qui est très important, c'est que cette Palestine ne peut se comprendre, si vous voulez, qu'à travers le fait qu'elle est romaine, justement, et que ce moment important du 1er siècle, qui voit, entre autres, l'arrivée de Jésus, si vous voulez. Alors, pourquoi on parlera peu de Jésus? Parce que, justement, et ça c'est quelque chose qui est très important, qu'on oublie assez souvent, c'est que les Romains ne connaissent pas Jésus, en parlent très peu. On a quelques mentions, si vous voulez, et les seuls textes qui parlent de Jésus, et ça pose un problème quand on est un peu historien, c'est le fait que les textes, ce sont les textes dits chrétiens. Alors, vous voyez, on est dans une période, on est au 1er siècle, et tous les termes qu'on utilise sont des termes qui souvent n'étaient pas employés à l'époque. Vous voyez, je vais vous donner quelques exemples un peu en introduction, avant qu'on essaie un petit peu de contextualiser les choses. Quand on parle de Jésus, hein, on parle du Christ, vous voyez, mais quand vous regardez par exemple les sources romaines, souvent, et très souvent, ils ne font pas l'association. C'est-à-dire que soit on parle du Christ, soit on parle de Jésus, mais on associe rarement les deux. Vous voyez. Autre élément important, on considère, et moi je suis souvent embêté de ce point de vue-là pour évoquer la religion chrétienne, parce qu'au 1er siècle, le christianisme n'est pas une religion. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va être obligé d'utiliser un certain nombre de termes, que les chrétiens d'ailleurs utilisaient eux-mêmes, et même si on parle des premiers disciples, est-ce qu'ils étaient chrétiens? Vous voyez, c'est toute une série de questions à laquelle on se pose, et un des intervenants, j'ai regardé un petit peu le programme, va, par exemple, vous poser peut-être comme question, parce qu'il a écrit un bouquin là-dessus il y a quelques années, qui est, et c'est une question à laquelle on n'a pas l'habitude de répondre de très très rapidement, c'est qui a fondé le christianisme? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est Paul? Alors quand je parle de Paul, pour qu'on soit bien précis, je parle de Paul de Tarse, parce qu'on ne le connaît pas très souvent sous cette expression, et Paul de Tarse, c'est saint Paul. Alors, ces précautions mises un petit peu en avant, pourquoi le 1er siècle? Alors, le 1er siècle, c'est vrai que c'est un moment important dans l'histoire, non pas du christianisme uniquement, mais dans l'histoire de Rome. Parce qu'en fait, le 1er siècle, si vous voulez, c'est un changement majeur sur un plan politique, c'est la naissance de l'Empire romain. Alors, pour faire très très rapidement, parce que ce n'est pas notre sujet, l'Empire, si vous voulez, est né à peu près au même temps que est née la religion chrétienne. C'est-à-dire qu'en fait, même si on ne connaît pas exactement la date de naissance de Jésus, vous savez, on a l'habitude de dire que c'est zéro, mais en fait, c'est pas zéro. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous lisez les évangiles, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, hein, vous savez, c'est-à-dire les évangiles que l'on peut comparer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concordances, en même temps où il y a beaucoup d'éléments de différence, et ça c'est un autre élément qui pourrait être abordé, eh bien, si on regarde la naissance de Jésus, on pense que Jésus, et c'est un peu paradoxal de le dire de cette façon, est né avant zéro. Vous voyez, vraisemblablement vers moins 3, moins 4, voire moins 7. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je ne m'appuie pas sur les évangiles, mais je m'appuie sur le fameux recensement, c'est le mot que je cherchais, merci. Le fameux recensement d'Hérode, si vous voulez, et ça, on a pu le dater. Donc, l'idée, vous voyez, c'est qu'en fait, quand on veut travailler sur l'histoire du christianisme, on est très embêté, tout d'abord parce que Jésus n'a rien écrit. Alors ça, ça ne veut pas dire que Jésus ne savait pas écrire, mais en tous les cas, soit on n'a rien retrouvé, soit il n'a rien écrit. Les textes qui parlent de Jésus sont souvent des textes chrétiens. Et moi, par regard d'historien, je me dis toujours, attention. Pourquoi? Parce que ces textes n'ont pas été écrits du temps de Jésus. ils ont été écrits à des moments très différents. Vous voyez, on pense que les premiers textes chrétiens, c'est dans la deuxième partie du premier siècle, voire à la fin du premier siècle. Alors, si je reviens un petit peu au développement de l'Empire, alors si vous avez quelques souvenirs un petit peu, l'Empire naît dans un contexte qui est la conséquence des guerres civiles. C'est-à-dire qu'en fait, Rome a connu des guerres civiles qui vont voir la victoire d'un homme qui s'appelle Octave Auguste, qui sera donc le premier empereur romain. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, César n'a jamais été empereur, par exemple. On le dit souvent, on dit Jules César, empereur de Rome. Ça, c'est ce qu'on appelle un anachronisme. Ce n'est pas la réalité, s'il vous plaît. La réalité, c'est quoi? Vous avez un nouveau régime qui se met en place, vous voyez. Ce régime, c'est un régime politique qui a à sa tête Octave Auguste, qui est un général romain, qui est le fils adoptif de César, et qui a remporté une victoire militaire qui lui a permis de créer ce qu'on appelle le Principat, hein, c'est-à-dire en fait l'Empire romain. Alors pourquoi c'est important? Parce que justement, et là vous allez voir aussi que le contexte est très important, pour les Romains, cet événement, il était très important. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il marque l'arrivée, et ça c'est toute la propagande, hein, et ça je le dis souvent, et ça peut choquer, j'essaierai de vous l'expliquer un petit peu après, le christianisme, c'est aussi une religion qui fait de la propagande. Alors, propagande, il ne faut pas que vous le compreniez dans un sens négatif. Propagande, si vous voulez, c'est ici, il faut comprendre, Octave met en avant l'idée qu'il est un homme providentiel. Vous trouverez aussi, par exemple, des expressions où on parle d'un sauveur, vous voyez. Et si vous regardez un petit peu toute la littérature dite païenne, c'est-à-dire la littérature latine, ben vous avez des auteurs comme Virgile, hein, qui est un poète, qui a écrit l'Énéide, où il met en avant, finalement, le fait que Octave Auguste, hein, puisqu'on l'appelait aussi de cette façon, c'est un homme providentiel, et que cet homme providentiel, finalement, va apporter un âge d'or. Alors, l'idée, vous voyez qu'il y a derrière, c'est que le phénomène de Jésus, c'est pas quelque chose qui est unique dans le monde romain, parce que des gens qui annoncent le royaume de Dieu, ce qu'on appelait à l'époque les astrologues, les prophètes, etc., vous en trouvez à foison. Alors, je ne remettrai jamais en cause, et ça c'est un élément très important, parce qu'on n'a aucune preuve, et au contraire, je dirais justement l'inverse, je ne remettrai jamais en cause devant vous l'existence historique de Jésus. Hein, ça pourra être abordé par d'autres conférenciers, puisqu'en fait, Jésus, c'est quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'il est véritablement le fondateur d'une nouvelle religion? Sûrement pas. Par contre, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a inspiré un mouvement de réformation dans le judaïsme. Et quand on regarde un petit peu le christianisme, et j'insiste beaucoup sur les mots parce que c'est très important, le christianisme, au départ, il faut que vous le voyez comme une secte. Alors attention au terme, parce que le terme secta n'a rien à voir avec les termes qu'on utilise aujourd'hui, parce que secte, ça a souvent une connotation négative. Secta en latin, c'est une école de philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, les chrétiens, si vous voulez, du premier siècle et des siècles suivants, se considéraient comme une secte, dans le sens une école de philosophie, hein, comme vous avez les écoles de philosophie grecque, où, en même temps, cette philosophie, c'est celle d'un maître qui est Jésus. Donc en fait, au départ, vous voyez, le christianisme n'est pas une religion, c'est une école de pensée. Et il faut attendre le milieu du IIIe siècle pour qu'on entende dans la bouche d'un homme qui s'appelle Tertullien, on est vers 193, vous voyez, donc on est plutôt à la fin du second siècle, où pour la première fois, on utilise le terme religio en latin pour désigner la religion chrétienne. Alors, tous ces éléments-là, si vous voulez, sont importants à comprendre. Pourquoi? Parce que de tout temps, évidemment, surtout quand on ne fait pas des études ou de la recherche sur les origines chrétiennes, on plaque des choses qui n'existaient pas à l'époque. Je vous donne un exemple très simple. Au premier siècle de notre ère, le pape n'existe pas. Vous n'avez pas d'hiérarchie dans l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église, il faut que vous l'imaginiez en fait comme un ensemble de communautés. Vous voyez? Des communautés qui ont à leur tête le plus ancien d'entre eux, qu'on appelle le presbytère, hein, c'est-à-dire ce qui est donné entre guillemets à travers l'idée de prêtre, mais la hiérarchie qu'on connaît, que vous connaissez par exemple, avec au sommet le pape, les évêques, et j'ai oublié les cardinaux, les prêtres, les diacres, ça n'existe pas. Ça, ce qu'on est en train de décrire, vous voyez, c'est l'Église du Moyen-Âge. Un autre exemple, puisque j'avais vu ça avec certains d'entre vous à l'Université populaire, on peut aussi se poser une question importante, et il faut attendre le 4e siècle pour avoir la réponse, parce que c'est l'Église qui va l'imposer, c'est qui est le Christ. C'est-à-dire, est-ce que le Christ est un dieu, est-ce que c'est un homme, etc., etc. Et vous avez toute une série de discours qui se sont développés autour de la personne de Jésus, qui ont été qualifiés par l'Église d'hérétiques, en sachant que le mot, moi je ne l'aime pas du tout parce que c'est un mot qui a une connotation péjorative, c'est-à-dire en fait un discours qui ne colle pas avec le discours officiel de l'Église. Parce que si on regarde un petit peu, vous voyez, l'Empire romain, si vous voulez, a servi au développement de la religion chrétienne. Et le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est l'exemple de Paul. Parce qu'en fait, si le christianisme a pu justement, on va y venir après, a pu sortir de Palestine et s'est diffusé dans le monde romain, c'est grâce, entre autres, à Paul de Tarse. Alors, tout simplement pourquoi ? Parce que Paul, comme vous le savez, Paul est originaire d'une ville de Cilicie, donc qui est dans la partie orientale de l'Empire, et Paul, c'est un juif citoyen romain. Alors, pourquoi c'est très important ? Parce que, en tant que citoyen romain, il a le droit de circuler librement dans l'Empire, et Paul, qui nous le rappelle dans ses épîtres, est allé rencontrer des communautés chrétiennes, si vous voulez, mais il est d'abord allé voir des juifs pour les convertir. Et souvent, ce qu'on oublie très souvent, c'est que quand on évoque, par exemple, les épîtres de Paul, on ne les contextualise pas. Je vous donne un exemple très rapide, parce qu'il faudrait qu'on aille à notre sujet qui est la Palestine. Il faut bien comprendre, finalement, que, par exemple, quand Paul s'adresse aux Romains, vous connaissez tous l'épître aux Romains, les Romains, ce n'est pas la population romaine, c'est l'Église de Rome, c'est-à-dire une des communautés chrétiennes qui s'est diffusée dans le monde romain. Donc, quand on regarde un petit peu, vous voyez, il y a toute une série d'interrogations importantes à laquelle il faut faire attention, c'est-à-dire qu'en fait, le christianisme, il faut bien comprendre qu'il a une histoire. Cette histoire, c'est une histoire que l'on a l'habitude de connaître grâce à les évangiles, ou grâce aux évangiles, par exemple, mais pas uniquement, parce que vous avez aussi toute une littérature que l'Église dite catholique, c'est pareil, le terme catholique à l'époque, on n'utilise pas du tout. Ce qu'a fait l'Église, si vous voulez, c'est qu'elle a fait un tri dans les textes. Et certains textes, par exemple, sont considérés par l'Église comme des textes apocryphes. Je vous donne un exemple, l'Évangile de Marie, l'Évangile de Pierre, etc., etc. Donc, il faut prendre toute une série de précautions, parce que, en même temps, le christianisme, si vous voulez, il a une histoire linguistique. Dans le sens que les premiers chrétiens écrivaient soit en hébreu, soit en araméen, puis le christianisme s'est énoncé en grec, puis en latin. Or, si vous regardez Paul, par exemple, quand il parle de la religion chrétienne, il utilise un terme grec, kairesis, qui veut dire secte, justement, et vous avez l'équivalent en latin, vous voyez, qui est secta. Par contre, le terme religio, qui est évoqué par Tertullien, il n'existe pas dans le monde grec. Donc, il faut bien comprendre, au départ, si vous voulez, que la naissance de la religion chrétienne, elle se fait dans un contexte, si vous voulez, où vous avez un empire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est très tolérant en matière religieuse, un empire dans lequel vous avez une langue, qui est en fait la langue de l'administration, qui est le latin, mais où vous avez, par exemple, dans la partie est de l'empire, beaucoup de gens qui parlent le grec. Et si vous prenez Paul, par exemple, Paul de Tarse parle grec, écrit en grec. Et son avantage aussi, si vous voulez, c'est qu'il a une double culture. Il a une culture grecque et il a une culture latine, qui lui permet justement de s'adresser à la communauté chrétienne, par exemple, de Rome, parce que vous imaginez un juif qui parle grec, qui s'adresse à des chrétiens à Rome qui parlent le latin. Il ne pouvait pas se faire comprendre. Vous voyez ? Et donc, si on reprend un petit peu, il faut bien comprendre qu'en fait, l'Empire romain pouvait me mettre voilà. L'Empire romain, qu'est-ce que c'est ? L'Empire romain, en fait, c'est un ensemble de provinces. Alors, sauf l'Italie, qui n'est pas une province, qui ont été quasiment toutes conquises par Rome. Ce qui veut dire que, vous voyez, en fait, l'Empire romain, c'est un empire en tant que régime politique, mais c'est aussi un empire territorial. Et quand vous regardez un petit peu la carte, ben vous vous rendez compte que cet empire, il est immense. Il fait à peu près entre 6 et 7 fois la France d'aujourd'hui. Et cet empire, en fait, il est composé de provinces. Donc, je disais donc, sauf l'Italie. Alors, je rappelle très très vite, hein, pour ceux qui l'ont oublié, qu'en fait, cet empire s'est construit depuis Rome, qui est aussi une cité, qui est née vers 753 avant Jésus-Christ. Et depuis la cité de Rome, eh bien, Rome a d'abord conquis l'Italie, puis a étendu sa domination à l'ensemble du bassin méditerranéen en créant ce qu'on appelle des provinces. Et dans chacune des provinces, eh bien, vous avez des cités, comme par exemple la cité de Carthage, hein, qui est un des foyers très importants pour la religion chrétienne, où vous allez avoir, par exemple, de grands penseurs chrétiens, alors évidemment postérieurs, je pense par exemple à Augustin, hein, je pense à Tertullien, à Cyprien, qui ont participé de manière très très importante au développement de la religion chrétienne. Il y a un élément auquel il faut vraiment bien garder en tête, c'est qu'on parle souvent des évangiles, on parle souvent des actes des apôtres, mais on oublie tout le travail qui a été fait après par les pères de l'Église. Et si on regarde, si je reviens donc à la formation de l'Empire romain et à la construction de l'Empire romain, vous avez donc différents peuples qui sont dans des provinces, chacune des provinces comprenant une ou plusieurs cités. Et en fait, l'Empire romain, qu'est-ce que c'est? C'est une fédération de cités. Et contrairement à ce qu'on entend très très souvent ou ce qu'on peut lire, les Romains étaient très tolérants en matière religieuse. À partir du moment où, je parle de l'Empire romain, où vous respectiez les traditions romaines, et surtout où vous respectiez, et ça c'est fondamental pour comprendre les relations ensuite entre Rome et les chrétiens, où vous respectiez ce qu'on appelle le culte impérial. Je rappelle juste, parce que c'est un élément très très important, le culte impérial, c'est ce qui est le plus important dans le monde romain pour s'assurer la fidélité de tous ces peuples qui ont été conquis. Quand l'empereur va imposer la religion impériale, il va imposer en même temps le fait que tout habitant ou tout homme libre, c'est pas exactement la même chose, hein, parce que dans les habitants, vous avez évidemment les esclaves, et je rappelle qu'un esclave, par définition, n'est pas considéré comme un être humain. Hein, puisqu'un esclave, je rappelle, c'est une chose, c'est un bien qu'on peut vendre, qu'on peut acheter, qu'on peut louer, qu'on peut prêter. Donc, dans chacune des provinces, vous voyez, Rome est présente, et puisque c'était notre sujet, la Palestine est une des provinces romaines. Hein, et ce que l'on va voir ensuite, c'est comment cette Palestine est devenue une province romaine, en rappelant quand même quelque chose qui est très important, c'est que les Romains, quand ils vont conquérir la Palestine, vont avoir affaire à un peuple qui s'appelle le peuple juif. Et le peuple juif, et ça, je pense que ça, c'est un élément très très important, il a une particularité très importante dans le monde romain, c'est que c'est quasiment le seul peuple qui pratique une religion monothéiste. Et le seul peuple qui a gardé un droit, qui est celui de pratiquer librement sa religion, sans passer par le respect du culte impérial. Je m'explique très rapidement. Rome a imposé aux Juifs un tribut avec un T, c'est-à-dire un impôt, qui était versé chaque année au trésor impérial, si vous voulez, et qui permettait aux Juifs de garder leur spécificité, et notamment de pouvoir s'exonérer, si vous voulez, de la pratique du culte impérial. Alors, pourquoi c'est important? Parce que si vous voulez comprendre les persécutions dont étaient victimes les chrétiens, il faut avoir en tête quelque chose qui est très important, c'est que le problème des chrétiens n'était pas un problème religieux, mais un problème politique. Tout simplement pourquoi? Parce que les chrétiens refusaient de pratiquer le culte impérial, voyez, parce qu'ils y voyaient ce qu'on appelait à l'époque de l'idolâtrie. Pour eux, l'empereur n'était qu'un faux dieu. Donc pas question de rendre un culte à l'empereur. Or, l'empereur attendait à travers ce culte une marque de fidélité. Donc, les chrétiens, si vous voulez, s'ils ont été condamnés à mort parfois, mais je rappelle que, et ça c'est quand même quelque chose, je prends une image assez caricaturale, un chrétien, c'est pas un martien. Un chrétien, c'est d'abord et avant tout un romain. Et contrairement à ce que l'on a pu dire pendant, je dirais, des siècles, la religion romaine recrutait, la religion chrétienne recrutait dans toutes les couches de la société romaine. C'est-à-dire que ce n'est pas la religion des petites gens. Puisque, si vous regardez autour de l'empereur, les hauts fonctionnaires, les gouverneurs, etc., certains n'ont pas hésité à s'afficher comme chrétiens, en risquant leur peau, hein, puisqu'un certain nombre ont été, je rappelle, envoyés au lion, hein, puisque c'était une habitude soit d'envoyer les chrétiens au lion, soit de s'en débarrasser, hein, c'est-à-dire soit en les crucifiant. Alors, juste un détail par rapport à ça, bon, vous savez tous que Jésus est mort crucifié, et dans certaines littératures, on va vous dire que Jésus a été crucifié parce que les Romains crucifiaient les esclaves. Je vous donne juste un exemple, les 6000 esclaves de Spartacus qui ont été crucifiés par les Romains parce que c'était des esclaves. Or, il y a un élément qui est très important, c'est que les Romains crucifiaient aussi tous ceux qui n'étaient pas citoyens romains. Et d'ailleurs, si on regarde, vous voyez, si on regarde simplement ce que nous dit Paul, quand il part à Rome, après avoir été arrêté par exemple par le gouverneur qui lui reproche finalement son prosélytisme, eh bien, Paul va à Rome en tant que citoyen romain, il a le droit de faire appel au tribunal impérial, et son mode d'exécution nous apprend en même temps qu'il est citoyen romain, parce que les citoyens romains avaient l'habitude, les pauvres, d'être décapités, soit par le glaive, soit par une hache. Vous voyez ? Donc quand on apprend, par exemple, la mort d'un personnage très important comme Paul, ça nous permet en même temps de savoir qu'il était citoyen romain, et citoyen romain dans l'Empire du 1er siècle, c'est un privilège. Vous voyez ? Donc, si vous prenez par exemple la famille de Paul, qui était donc juif, je rappelle d'ailleurs tout comme Jésus, la famille de Paul, ce sont des gens qui appartiennent, si vous voulez, on le dirait entre guillemets, à la haute bourgeoisie de Tarse, ce sont des marchands, et ça donne totalement une idée, ça permet de revenir sur une idée comme quoi les chrétiens étaient recrutés parmi les petites gens. Ça, c'est pas vrai. Vous voyez, toutes les couches de la société romaine ont été touchées, à tel point d'ailleurs que vous avez même des soldats dans l'armée romaine. Hein. Alors le problème évidemment pour les soldats, et je pense évidemment pour les légionnaires, c'était de sacrifier au génie de l'empereur, vous voyez, et de porter la couronne de laurier. Donc les chrétiens, très rapidement, si vous voulez, se sont distingués comme des gens à part. Pourquoi ? Ben parce qu'ils refusaient par exemple le culte impérial, ils refusaient de porter les armes, et ils refusaient d'assister, par exemple, à tous les spectacles. Donc, pas de chrétiens dans les théâtres, par exemple, parce que pour eux, ils le voyaient comme une forme d'idolâtrie. Alors, si je viens à mon sujet à proprement parler, après tous ces propos un peu liminaires, quand on travaille en histoire sur une religion, quelle qu'elle soit, on va d'abord s'intéresser à ce que nous disent les textes. Et j'ai un certain nombre de sources à vous évoquer. Alors, j'évoquerai surtout les sources, ce qu'on appelle textuelles, c'est-à-dire quels sont les textes qui peuvent nous servir à comprendre la Palestine, qui, je vous rappelle, donc depuis 63 avant Jésus-Christ, j'y reviendrai un petit peu après, est ce qu'on appelle une province romaine. Alors, tout d'abord, vous avez les sources textuelles juives, et notamment un auteur sur lequel je vais m'appuyer tout à l'heure, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Flavius Joseph, et qu'on connaît entre autres à travers... Alors je vous le présente rapidement, pardon, c'est un juif pharisien, alors je reviendrai un petit peu sur cette définition tout à l'heure, qui a été fait prisonnier par les Romains lors de la révolte juive, puisque les juifs étaient en constante révolte contre l'autorité de Rome, si vous voulez, et ensuite il est devenu ce qu'on appelle un historiographe, c'est-à-dire qu'il a fait de nombreux écrits où il fait la propagande de l'Empire, et notamment de l'empereur Vespasien. Alors, ce qui est très intéressant à travers les écrits de Flavius Joseph, c'est que vous avez en fait deux écrits, l'un qui s'appelle La guerre des Juifs, qui date de 75, et qui nous raconte le récit de la révolte juive et de la destruction du temple de Jérusalem. Et le deuxième texte, qui s'intitule Les Antiquités juives, qui est un petit peu postérieur, il est intéressant parce qu'il nous raconte l'histoire du peuple juif depuis la création jusqu'à la guerre contre Rome, hein, en rappelant bien quand même que pour les Romains, la Palestine, entre guillemets, c'est une plaie, parce qu'ils ont eu énormément de mal à pacifier cette province romaine qui est en constante rébellion. Et je vous donnerai quelques exemples après pour illustrer le propos. Ensuite, vous avez des textes qui ne sont encore pas totalement connus, qui s'appellent les manuscrits de la Mer Morte. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces manuscrits de la Mer Morte, on les a découverts en 1947 dans une grotte, ou dans un ensemble de grottes pour être plus précis, qui sont les grottes de Qumran. Et ces manuscrits ils sont très intéressants parce qu'ils nous donnent des renseignements sur le contexte juif de la naissance du christianisme, et on rattache finalement habituellement ces textes à une communauté qui est un petit peu, alors je vais caricaturer un petit peu, mais tant pis, qui est un petit peu l'ancêtre, si vous voulez, du monachisme. Cette communauté s'appelle la communauté des Esséniens. Et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais je voulais juste vous faire une remarque par rapport à ça. Pendant très longtemps, quand on lisait la littérature, on va dire la littérature universitaire, on a eu beaucoup de débats pour savoir si Jésus n'était pas originaire de cette communauté. Alors, tout simplement pourquoi ? Parce que, et je vais enfoncer une porte ouverte, vous savez que Jésus est originaire de Nazareth, et l'argument, si vous voulez, c'était de dire que Jésus était membre de cette communauté, d'où le fait qu'il attende dans le désert, etc., puisqu'en fait, il faut que vous compreniez que la communauté de Qumran, c'est une communauté, si vous voulez, qui attend l'arrivée du Messie, ça j'y reviendrai tout à l'heure, en rappelant bien que Messie, je vais mettre des guillemets, et on essaiera d'expliquer pourquoi. Et cette communauté essénienne, peut-être Jésus en faisait partie, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les Esséniens portaient un autre nom, on les appelait les Nazoréens. Et on est d'accord que Jésus est originaire de Nazareth, Jésus le Nazaréen. Et du fait de la similitude du vocabulaire, certains y ont vu Jésus était en fait un juif, membre de cette communauté. Mais dans la réalité, j'y reviendrai un peu plus tard tout à l'heure, Jésus était vraisemblablement membre des pharisiens. Alors, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure pourquoi. Alors, vous voyez, on est quand même limité au niveau des textes juifs. Et puis, pour ce que j'ai appelé les sources latines, ben ça ne va pas chercher très loin non plus, on a deux textes. Un premier texte d'un auteur que vous connaissez qui s'appelle Tacite, qui est un historien romain, si vous voulez, qui nous raconte la guerre de Judée. Alors Tacite, il est très important, pourquoi ? Parce que c'est un des seuls romains qui parle de Jésus. Alors, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi les Romains ne s'intéressaient pas à Jésus. Parce qu'en fait, quand vous regardez la littérature dite païenne, vous n'avez que 5 mentions qui parlent soit de Jésus, soit du Christ. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que les autorités romaines, vous voyez, qui ont été confrontées, je rappelle quand même, on y reviendra un peu tout à l'heure, à Ponce Pilate, n'en parle jamais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire tout simplement que dans un premier temps, les chrétiens, si vous voulez, pour les autorités romaines, ce sont des juifs. Et donc, ils ne font pas la distinction. Et quand ils voient, par exemple, la prédication de Jésus, pour eux, c'est un problème interne aux juifs, et ce n'est pas du tout la naissance d'une nouvelle religion. Et donc, si on regarde un petit peu, vous voyez, vous avez un autre auteur qui s'appelle Pline l'Ancien, qui évoque l'idée des Esséniens. Mais si on regarde un petit peu, on a très peu de sources qui parlent des premiers chrétiens, je mets entre guillemets, à part, et évidemment il faut qu'on les utilise, ce sont les sources entre guillemets chrétiennes, et notamment le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, ben, vous avez deux ensembles de textes qui sont très utiles, les évangiles, ce qu'on appelle synoptiques, et puis les actes des apôtres qui sont attribués pour partie à Luc. Voilà les quelques textes dont on a à disposition pour connaître l'histoire de la Palestine des premiers temps, vous voyez, c'est-à-dire au premier temps, pour moi c'est le premier siècle, mais quand on regarde globalement, les autorités romaines, alors quand je parle des autorités romaines, je parle du pouvoir impérial, je parle par exemple des gouverneurs dans chaque province, pour eux, le christianisme, si vous voulez, c'est quoi ? C'est un problème interne aux juifs. Alors, quand je dis un problème interne aux juifs, ça veut dire qu'en fait, le christianisme, pour les autorités romaines, alors déjà, pour eux, christianisme, vous voyez, pour dire les choses simplement, un gouverneur romain, si on lui dit que Jésus est le Messie, il ne comprend rien ce que ça veut dire. Parce que ça n'a pas de sens. Vous voyez ? Alors, pourquoi ça n'a pas de sens ? Parce que justement, la religion traditionnelle romaine, si vous voulez, ce n'est pas une religion de salut. C'est-à-dire que ce n'est pas une religion qui annonce quel sera le devenir de l'homme après la mort. Et la religion chrétienne, elle fait partie justement de ces religions, comme à l'époque qu'on appelait orientales, qui se différencient de la religion romaine. Alors vous voyez par exemple, alors je sors un peu du contexte, mais si vous prenez la religion par exemple des Égyptiens, elle évoque cette question de l'après. Les Romains, c'est pas leur, si vous voulez, c'est pas du tout un problème pour eux. L'idée qu'il faut que vous voyez, c'est qu'en fait, la religion romaine, c'est une religion rituelle qui est faite d'un certain nombre de traditions sur lesquelles se sont greffées le culte impérial. Et ce culte impérial, pour les Romains, c'est plus important, je dirais, et surtout pour l'empereur, que les problèmes internes au judaïsme. Donc, si on résume un petit peu, vous voyez, si on veut travailler sur les textes chrétiens, on ne peut pas les rejeter, dans le sens que, moi je le dis souvent de cette façon, un texte chrétien, ça s'analyse de la même manière que, par exemple, un discours de Cicéron, que un plaidoyer, par exemple, de Plutarque, etc., etc. Et donc, on aboutit finalement à se poser un certain nombre de questions, si vous voulez, parce qu'en fait, si on essaie de comprendre la naissance de la religion chrétienne, eh bien, on est un peu embêté, je le dis comme ça, parce qu'on n'a quasiment que des textes dits chrétiens. Alors, pourquoi je vous dis qu'on est un peu embêté? Parce que ces textes, je prends beaucoup de précautions, ces textes, par exemple, on a beaucoup, beaucoup de mal, par exemple, en identifier les auteurs. Vous voyez, quand on dit, par exemple, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, etc., quand on regarde un petit peu les textes, on peut se poser la question de savoir, par exemple, s'il y a une seule personne qui a écrit. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que la Palestine, et je vais rentrer enfin dans mon propos, la Palestine, il faut que vous voyez que c'est le monde des traditions orales. Donc on n'écrit pas. Et c'est ce qui explique peut-être que Jésus n'ait rien écrit. Alors, quand je dis n'ait rien écrit, là aussi je vais prendre beaucoup, beaucoup de précautions, parce qu'en fait, Jésus n'a rien écrit, ou, et moi je le vois plutôt comme ça, on n'a rien retrouvé de sa main. Ou peut-être n'avait-il pas besoin d'écrire. Mais en même temps, je pense, et ça maintenant, la quasi-totalité des historiens sont d'accord là-dessus, Jésus, c'est un personnage historique, qui a une histoire. De là en faire le Christ, voire le Messie, ça c'est un acte de foi. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la conférence, et c'est pas pour provoquer que je dis ça, pour moi, jamais je n'associerai les deux. Vous voyez? Et d'ailleurs, pour un juif, encore aujourd'hui, Jésus n'est pas le Christ. On est d'accord? Et d'ailleurs, si on regarde par exemple, vous voyez au IVe siècle, je vais très très vite, Rome, si vous voulez, progressivement va adopter la religion chrétienne comme la religion impériale. C'est-à-dire qu'en fait, le christianisme va devenir une religion d'État. Et le pouvoir impérial va mettre son nez dans les affaires de l'Église. Ça va déboucher entre autres sur un certain nombre de conciles, qu'on appelle les conciles écuméniques, vous voyez, dont un qui est particulièrement connu, qui date en gros de vers 325, qui est le concile de Nicée. Et le concile de Nicée, il a défini quelque chose qui est très important, qui est la nature du Christ. Et l'idée, si vous voulez, c'est que le pouvoir impérial est intervenu, comme il faisait d'ailleurs dans les affaires d'autres religions, pour définir concrètement ce qu'allait être la foi. Pourquoi? Ben parce que vous aviez un certain nombre de discours, si vous voulez, qu'on appelle des discours déviants, qui, comme par exemple l'arianisme, disait que Jésus était un homme. Alors, moi j'ai un argument qui va dans ce sens. Si Jésus est bien le Fils de Dieu, comment se fait-il qu'il est mort sur la croix? Vous voyez, ce genre de questions-là, ça a débouché sur ce qu'on appelait à l'époque des hérésies. Ces hérésies se sont multipliées. Et il faut bien comprendre aussi qu'un certain nombre de choix qui ont été faits dans l'Église ont été faits à la demande du pouvoir impérial, qui voulait rétablir l'unité de l'Église, si vous voulez, et en même temps que ces choix ont été faits parfois dans des conditions qui nous sont rapportées, par exemple, par l'Empire lui-même. Je vous donne un exemple très simple. Le Concile de Nicée, il faut que vous imaginiez que c'est l'empereur qui l'a réuni, que des évêques d'Orient et d'Occident ont été quasiment forcés de se réunir, qu'il y avait parmi les membres de l'Assemblée quelqu'un qui était le rapporteur des débats à l'empereur, et en même temps, il faut que vous imaginiez qu'on a décidé de la nature du Christ, ou de Jésus, comme vous voulez, à main levée. Et que les évêques, je vais être un peu vulgaire, se sont tapés sur la figure pour définir ce que devait être Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Jésus, si vous regardez les évangiles, Jésus n'a jamais abordé ces questions. C'est logique, puisqu'on est 4 siècles plus tard. Ou 3 siècles plus tard, si on regarde un petit peu la chronologie. Donc, si on prend toutes ces précautions, vous voyez, ça nous permet en même temps d'essayer de remonter le processus pour essayer de comprendre finalement comment finalement une secte juive est devenue la religion impériale de Rome pour devenir ce que vous connaissez à travers évidemment la religion chrétienne. Alors, dans ma première partie, merci, on va essayer de, et je vais aller un peu plus vite, voir comment finalement la Palestine est devenue une province soumise à Rome. Alors, vous voyez, si vous regardez les évangiles, vous connaissez tous Ponce Pilate, et si Ponce Pilate a fait condamner à mort Jésus, c'est parce qu'il était préfet de Judée, vous voyez, et que l'autorité romaine, c'était à elle de faire respecter l'ordre. Et je rappelle, parce que ça je pense que vous le savez aussi, mais je vais très vite, que ce sont les grands prêtres du temple qui ont exigé l'arrestation de Jésus, qui a été condamné à mort par les Romains. Et vous connaissez la phrase de Ponce Pilate, « Je m'en lave les mains ». Ça voulait dire quoi? Que pour lui, c'était un problème interne au judaïsme, et que Rome, finalement, a fait condamner Jésus à la demande des grands prêtres du temple. Hein, et vous rappelez que sur la croix, roi des Juifs, pour les Romains, ça n'avait aucun sens, parce que pour eux, la Palestine était une province romaine. Alors, cette province romaine, vous voyez, cette province devient romaine en 63 avant Jésus-Christ, suite à une conquête militaire. Donc les Romains ont conquis militairement la Palestine grâce à la victoire d'un homme qui était ce qu'on appelle un impérator, c'est-à-dire un général victorieux qui a été longtemps un proche de César, puis ensuite il en est devenu le rival, qui s'appelle Pompée. Alors, la Palestine, si vous voulez, déjà le terme. Le terme, on le connaît depuis le 5e siècle, avant Jésus-Christ évidemment. Alors, la Palestine, c'est une expression un mot que l'on utilisait pour désigner une région méridionale de la Syrie. Et comment on le sait? On le sait à travers les écrits d'un homme que vous connaissez peut-être, qui est considéré comme le père de l'histoire, qui s'appelle Hérodote. Et Hérodote, dans ses voyages, relate une partie de son parcours où il évoque justement le fait qu'il est allé en Palestine. Et la Palestine, pour lui, c'était quoi? C'était une région, si vous voulez, qui s'étalait entre la Phénicie, l'Égypte, et dont, vous la connaissez maintenant malheureusement parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, qui s'appelle Gaza. Et Gaza était une des villes les plus importantes, alors je devrais dire citée hein, pour être plus précis, de cette Palestine. Alors, au moment de la conquête romaine, la Palestine, elle faisait partie d'un empire qui s'appelait l'Empire des Séleucides. Vous pouvez mettre, s'il vous plaît? Alors, l'Empire des Séleucides, je vais vous expliquer rapidement parce que vous n'avez pas forcément ça en tête. L'Empire des Séleucides, en fait, c'est ce qu'on appelle un royaume hellénistique. Alors, royaume hellénistique, il faut que vous compreniez qu'en fait, toute la région que vous avez sur la carte, vous voyez, elle a été conquise par un homme qui s'appelle Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, quand il va décéder, eh bien, son empire va être partagé entre ses généraux et ses compagnons qui vont s'attribuer chacun une partie de l'empire. Et la Palestine, vous voyez, va être intégrée dans ce royaume que l'on appelle le royaume des Séleucides. Alors l'autre royaume s'appelant le royaume des Lagides. Alors pour faire très simple, en fait, il faut que vous voyez qu'avant la conquête romaine, la Palestine était en fait gouvernée par des rois grecs. Parce que je rappelle qu'Alexandre le Grand, comme vous le savez, est originaire de Macédoine. Et dans cette région orientale de l'Empire romain, eh bien, vous allez trouver un certain nombre de cités, dont Tars, par exemple, dont Antioche, où les habitants parlent le grec. Et tous ces habitants, si vous voulez, vivent dans des cités que l'on appelle des cités de la diaspora hellénistique, c'est-à-dire qu'en fait, une grande partie des Juifs qui vivaient dans cette partie de l'Empire romain parlent le grec. Et c'est pour ça que, quand je regarde, par exemple, les épîtres de Paul, Paul écrit en grec, et il peut se faire comprendre des Juifs, parce que les Juifs, eux-mêmes, ce sont des Juifs qui parlent le grec, qu'on dira hellénisés. Donc Paul, vous voyez, va voyager dans cette partie du monde. Il va aller donc dans les cités de ce qu'on appelle donc la diaspora hellénistique. Et ce qu'il faut bien comprendre en même temps, si vous voulez, c'est que le christianisme est né, si vous voulez, dans une province, qui va devenir, ou d'une région si vous voulez, qui va devenir une province romaine, qui est très hellénisée. C'est-à-dire où une partie assez importante est composée de Grecs, qui sont juifs, mais qui parlent le grec. Vous voyez, dans le sens qu'aujourd'hui, si vous regardez, l'immense majorité de la population palestinienne, ce sont des Arabes. On est bien d'accord. À l'époque de Paul et à l'époque de Jésus, eh bien, ce sont d'abord et avant tout des juifs hellénisés. Et le christianisme, si vous voulez, va naître dans cette province où vous avez une partie très très importante. Alors, si vous regardez à l'échelle de l'Empire, vous savez, c'est très compliqué d'avoir un nombre d'habitants. Mais on estime qu'il y avait entre 6 et 7 millions de juifs dans l'Empire romain. Vous voyez, donc c'est quand même un nombre très très important. Et je rappelle, parce que ça c'est un élément important, que quand les Romains débarquent, puisque il faut le voir comme ça, en Palestine, ils arrivent dans une province qui est en complète agitation, où vous allez avoir une succession de révoltes, tout d'abord contre les Séleucides, mais aussi, évidemment, à partir du moment où Rome met la main sur cette province. Et surtout, il y a un moment qui est très important, c'est lorsque Pompée prend en 63 Jérusalem après un siège, et surtout se permet d'entrer dans le temple, dans un lieu qui pour les juifs est très important, qui s'appelle, et je pense que vous le connaissez, le Saint des Saints. Et pour les juifs, cet acte est vécu comme une provocation. Et dans le monde romain, si vous voulez, enfin, les juifs, je vais le prendre dans l'autre sens, les juifs vont toujours voir les romains, dans leur très grande majorité en tous les cas, comme une puissance occupante. Et on verra un petit peu après que les juifs ne vont pas agir de la même manière par rapport aux romains. Dans le sens que certains vont choisir, si vous voulez, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, d'attendre l'arrivée d'un sauveur qui les délivrera surtout, et ça c'est très important, de la présence des Romains. C'est-à-dire qu'en fait, l'arrivée, si vous voulez, du Messie, elle est vécue non pas uniquement comme l'arrivée de quelqu'un qui annoncerait le royaume de Dieu, mais comme quelqu'un qui délivrerait la Palestine de la présence des Romains. Et ça, je pense que c'est quand même très très important à comprendre. Donc, vous voyez qu'en fait, les Romains ne sont pas forcément très bien vus et très bien acceptés par les Juifs, d'autant plus que, en même temps, si vous voulez, Rome va jouer sur les antagonismes pour imposer sa domination. Alors, pour dire les choses simplement, si on revient un petit peu sur la conquête de Pompée, la conquête de Pompée va faire que la province devient une province romaine, et puis on va regarder la carte, je pense que tout le monde la voit, parce qu'en fait, quand on parle de la Palestine au temps de Jésus, si vous voulez, on a tous un réflexe, on pense la Judée. Mais en fait, la Judée, si vous voulez, c'est le cœur de cette province, et autour, vous avez un certain nombre de royaumes que les Romains vont laisser en place, dont un que vous connaissez particulièrement, qui est le royaume d'Hérode. Alors, en fait, qu'est-ce qu'ont fait les Romains, si vous voulez? Ils ont finalement laissé un certain nombre de princes gouverner des royaumes en ayant en tête quelque chose qui est très important, c'est que ces princes clients tirent leur puissance de Rome et vont être, si vous voulez, au service de Rome. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand Pompée, si vous voulez, prend le contrôle de la province, ou de la future province de Palestine, il va laisser en place un certain nombre de princes clients, si vous voulez, qui, derrière, vont lui permettre d'économiser des forces militaires pour gérer une province, parce que très très vite, les Juifs vont montrer une certaine forme d'hostilité. Et donc, dans un deuxième point, si vous voulez, on va essayer de voir que Rome va organiser la province en jouant sur les antagonismes, on en a parlé, mais surtout, et ça je pense que c'est très important, parce que Rome, si vous voulez, n'est pas dans un premier temps préoccupé par la situation de la Palestine. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que finalement, Rome va laisser une certaine autonomie à la Palestine en n'ayant en tête quand même quelque chose, c'est qu'ils attendent, et quand je dis ils, les autorités romaines, ils attendent de Rome, enfin ils attendent pour Rome, pardon, une certaine obéissance de la part des Juifs. Et ça, ça va poser un problème à partir du moment où les Juifs, si vous voulez, voient dans la présence des Romains une occupation, une puissance occupante. Donc, si on résume un petit peu, vous voyez, on se retrouve finalement dans une province qui a été conquise par Rome, mais en même temps, une province que les Romains considèrent comme secondaire. Alors, province considérée comme secondaire, ça veut dire soit parce qu'elle est trop éloignée de Rome, soit, et ça c'est, il faut le voir plutôt comme ça, parce que les Romains vont avoir beaucoup beaucoup de mal à pacifier cette province. Et il faut que vous voyez quand même quelque chose qui est très important, c'est que les Juifs seront, de manière globale, souvent en révolte contre l'autorité de Rome. Et si vous prenez par exemple Ponce Pilate, qui je vous rappelle, et là je m'appuie sur les évangiles, qui est préfet de Judée, eh bien Ponce Pilate, qui est préfet de Judée entre 26 et 36, il a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de Jésus. Il a sur le dos, j'y reviendrai tout à l'heure, les Zélotes, hein, qui vont chercher à se débarrasser par la force de la présence de Rome. Et en même temps, je rappelle quand même quelque chose qui est très important, c'est que le préfet de Judée, donc ici Ponce Pilate, sa principale mission, c'est d'assurer l'ordre. Et ce n'est pas un hasard, comme vous le savez, si Jésus a été condamné, ce n'est pas à cause de ses propos proprement religieux, c'est parce qu'il faisait un trouble à l'ordre public. Et si vous regardez, par exemple, de manière postérieure, si vous regardez, par exemple, les chrétiens du 2e, 3e, 4e siècle, au moment des persécutions, s'ils ont été persécutés, c'est parce que, un, ils étaient accusés de troubler l'ordre public, mais aussi, et ça c'est un élément très important, parce qu'ils étaient détestés par les païens, qui s'en prenaient à eux, et très souvent, quand par exemple, un gouverneur était obligé d'intervenir, c'était pour rétablir l'ordre public, parce que, et je vais le dire de manière un peu triviale, parce que les habitants des cités, qu'on pourrait appeler les païens ou les hommes libres, comme vous voulez, voulaient leur faire la peau. Hein? Et d'ailleurs, à un moment ou à un autre, vous allez voir un certain nombre de magistrats romains qui vont devoir arrêter des chrétiens parce qu'ils représentent une menace pour la cohésion de l'Empire du fait de la haine de la population. Et si vous regardez, par exemple, le moment de l'arrestation de Jésus, on est bien sur cette logique de trouble à l'ordre public. Vous voyez ? C'est-à-dire que Jésus a été arrêté, non pas parce qu'il était le roi des Juifs, mais parce qu'il était un trouble à l'ordre public, qu'il semait un peu la zizanie, si vous voulez, dans le monde juif, et que ça, pour le préfet de Judée, ça lui posa un problème. Vous voyez ? Parce qu'il avait besoin, si vous voulez, d'avoir un ordre dans sa province, et que cet ordre dans cette province, déjà très compliqué à pacifier, était remis en cause par les divisions, on va y revenir, entre les Juifs, mais aussi par la prédication d'un certain Jésus, si vous voulez, qui en même temps appelait au royaume de Dieu et qui tenait un discours, si vous voulez, qui aurait pu être considéré, si vous voulez, par les autorités romaines comme un discours factieux. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu les temps postérieurs, ben vous rendrez compte en fait que les chrétiens étaient souvent accusés par les Romains d'être factieux. C'est-à-dire qu'en fait, le problème du christianisme, vous voyez, c'est vraiment un problème qui est un problème politique. Donc, si je résume, vous voyez, si on prend la Palestine romaine au 1er siècle, elle se composait donc principalement de la Judée, de la Galilée, de Pérée et de régions environnantes, vous voyez, qui étaient sous l'influence de Rome, mais souvent administrées en même temps par des rois vassaux qui, et ça c'est très important, si je prends l'exemple d'Hérode, était détesté par la population. Vous voyez ? Parce qu'on voyait en Hérode quelqu'un qui était une marionnette de l'Empire romain. Et quand Jésus, si vous voulez, arrive dans cet univers qui est en pleine ébullition, vous voyez, pour les Romains, ça va poser un problème parce que Jésus va exacerber justement toutes ces tensions qu'il y avait dans le monde juif. Et ça va me permettre justement d'aborder dans un second point le fait que le monde juif, c'est un monde qui est divisé, donc c'est mon grand 2, s'il vous plaît, voilà, et qui est dans l'attente d'un Messie. Alors j'ai pris des précautions, vous voyez, j'ai mis Messie entre guillemets, j'essaierai de vous l'expliquer un petit peu dans un premier temps. Alors, pour connaître un petit peu le monde juif, vous avez un auteur, je vous l'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle Flavius Joseph. Et je vous ai mis la citation donc dans les Antiquités juives, je la relis. À cette époque, il y avait parmi les juifs trois sectes, vous voyez d'ailleurs lui-même il utilise le terme, qui professaient chacune une doctrine différente sur les affaires humaines. L'une était celle des pharisiens, l'autre était celle des sadducéens, et la troisième était celle des esséniens. Alors là, vous voyez déjà qu'il y a une première chose qui est importante, c'est qu'il n'y avait pas trois sectes, mais il y avait bien quatre sectes, parce que Flavius Joseph, alors est-ce que c'est volontaire, a oublié les zélotes. Alors, j'y reviendrai un petit peu après. Alors, pour faire très très rapidement, vous avez tout d'abord les sadducéens. Alors, les sadducéens, pour faire là aussi très rapide, il faut que vous y voyez la haute aristocratie des juifs, ou juives, qui est composée essentiellement des membres du clergé, et surtout du haut clergé. Alors, vous vous rappelez peut-être, donc, et vraisemblablement, dans les évangiles, on vous parle des grands prêtres du temple. Eh bien, ces grands prêtres du temple, ce sont les sadducéens. C'est-à-dire qu'en fait, eux, pour dire les choses très simples, ce sont des juifs qui ont accepté, et je le mets avec toutes les guillemets nécessaires, qui ont accepté de collaborer avec les autorités romaines. Et qui, ce qui explique d'ailleurs les bonnes relations qu'ils ont avec le préfet de Judée, Ponce Pilate, parce qu'en fait, les membres du temple sont le relais de l'administration romaine chez les juifs. Et ces grands prêtres du temple sont considérés par les zélotes comme des traîtres. Alors, les zélotes, pour vous les présenter rapidement, ce sont des juifs qu'on pourrait qualifier, alors là aussi je vais mettre des guillemets, de radicaux, qui veulent chasser les juifs, qui veulent chasser les Romains de la Palestine. Comment ? Par la force. Alors, je vais vous donner un exemple que vous connaissez peut-être, qui est l'exemple de Massada. Alors, Massada, c'est une forteresse qui est à proximité de la mer Morte, qui est restée célèbre. Pourquoi ? Parce que lorsque les Romains sont entrés en lutte contre la première révolte juive, donc qui date de, vous voyez, vers 270, qui correspond à la chute du Temple, eh bien, ils ont décidé de rétablir l'ordre par la force, et ils ont dû affronter les zélotes qui les combattaient, vous voyez, en commettant ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, alors je mets là aussi des guillemets, des méthodes de guérilla, des méthodes qui ne sont pas des méthodes de la guerre classique, si vous voulez. Hein, parce qu'évidemment, les légions romaines étaient bien beaucoup, enfin, de fait, beaucoup plus puissantes. Et les zélotes étaient commandés par un chef qui s'appelait Éléazar. Et au moment de la chute du temple, eh bien, Éléazar et les zélotes se sont réfugiés dans la forteresse de Massada, ce qui a forcé les armées romaines à mettre le siège devant Massada. Et les zélotes, sentant que les Romains allaient prendre la forteresse, se sont tous suicidés. Alors vous voyez, on aurait tendance à dire de manière un peu caricaturale que ce sont des fanatiques, mais en fait, pour eux, ils mènent une lutte, non pas religieuse, mais une lutte politique contre la présence de Rome. Donc, d'un côté, vous voyez, vous avez les zélotes qui sont les plus extrémistes et qui veulent chasser les Romains. De l'autre, vous avez les sadducéens qui, eux, sont prêts à collaborer et qui collaborent avec les autorités romaines. Et puis, à côté de ça, vous avez ceux qui attendent l'arrivée d'un Messie qui est censé les libérer, non pas uniquement de la présence des Romains, mais de leur apporter en même temps le royaume de Dieu. C'est la fameuse communauté dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la communauté des Esséniens. Et ces Esséniens, on les connaît, entre autres, grâce à ces manuscrits de la mer Morte, hein, qu'on a découverts donc en 1947. Et au-delà de ce que je vous ai dit par rapport au fait que Jésus était membre ou non de cette communauté, enfin mon avis personnel, c'est d'après tout ce que j'ai pu lire, cette hypothèse a été un peu abandonnée. Hein, on est plutôt sur l'idée, justement, que Jésus serait membre plutôt des pharisiens. Alors, les pharisiens, pour vous les décrire un petit peu, eux, si vous voulez, sont très attachés aux traditions, à la loi, et ils sont très proches d'un certain nombre de milieux que l'on appelle les milieux rabbiniques. Donc, pour eux, si vous voulez, le débat, finalement, c'est un attachement très important aux traditions, tradition orale, mais aussi aux Écritures. Évidemment, quand je parle des Écritures, je parle ici soit de la Bible hébraïque, soit, pour les chrétiens, de l'Ancien Testament, évidemment. Et eux, si vous voulez, sont des Juifs qui ne veulent pas entrer dans cette logique d'affrontement avec Rome. Parce que leur préoccupation, et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi Jésus était peut-être un pharisien, leur préoccupation, si vous voulez, c'est de réformer le judaïsme. Et si vous voulez, pour trouver une image, certes un peu caricaturale, mais je pense une image que vous pourrez comprendre assez facilement, il faut voir Jésus comme un prédicateur. D'ailleurs, si on regarde un petit peu un terme en équivalent en grec, on dirait que c'est un didascale. Vous voyez, c'est quelqu'un qui enseigne. Mais en même temps, Jésus, moi je le vois comme ça, et mes collègues qui viendront peut-être derrière vous diront sûrement la même chose, Jésus n'est pas le fondateur d'une religion, ou d'une nouvelle religion. On pense plutôt que Jésus, sa mission, c'était de rénover le judaïsme, si vous voulez, et de faire que le judaïsme retrouve son unité. Or, le problème, si vous voulez, c'est que la prédication de Jésus a semé un peu la zizanie dans le monde juif, puisqu'il s'est mis à dos, par exemple, les grands prêtres du temple. Et si les autorités romaines sont intervenues, vous voyez, ce n'est pas vraiment du tout pour un problème religieux. Parce que Ponce Pilate, il l'a dit, je m'en lave les mains, c'est un problème interne aux Juifs, ce n'est pas un problème du fait des autorités romaines. Sauf que la prédication de Jésus va entraîner des troubles à l'ordre public. Et quand vous avez la foule, par exemple, qui réclame la mort de Jésus et en même temps qui demande la libération de Barabbas, vous vous rappelez, eh bien, on voit bien en même temps que Ponce Pilate cède finalement à la pression de la foule, si vous voulez, parce que son objectif, c'est pas justement, c'est d'éviter à nouveau que l'on retrouve ce qu'on connaît depuis quasiment 63 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une multiplication des révoltes, et je rappelle, des révoltes d'abord politiques. Parce que les Juifs, et ça je pense qu'il faut bien le comprendre, se battent pour leur indépendance. Vous voyez ? Parce qu'ils voient dans les Romains un occupant. Et un occupant en même temps qui se permet de leur faire payer un tribut pour qu'ils puissent pratiquer librement leur religion. Et je pense, et je pense que c'est vraiment un élément qui est important. Vous voyez, quand on aborde l'histoire de Rome, on l'aborde à travers les aspects politiques, les aspects culturels, les aspects religieux, etc., etc. Mais on a tendance à oublier que le christianisme, si vous voulez, c'est d'abord et très souvent un problème politique. Et si on regarde un petit peu, et je reviens un petit peu à ce que je vous disais précédemment, par exemple sur les persécutions, si vous lisez les pères de l'Église expliquent bien que le problème entre Rome et les chrétiens, ce n'est pas un problème religieux, les Romains s'en fichent complètement. À partir du moment où vous sacrifiez au génie de l'empereur, tout le monde est amené à pratiquer librement sa religion. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez si on regarde un petit peu les Romains étaient très tolérants en matière religieuse. Ils acceptaient que chacun garde sa religion à partir du moment où il y avait ce qu'on appelle la Pax Romana, c'est-à-dire la paix politique. Mais dans le monde juif, c'est pas possible. En Palestine, vous avez un foyer d'insurrection permanent qui pose un problème pour les Romains. Vous voyez ? Et l'arrivée de Jésus, elle se cale là-dedans, c'est-à-dire dans une province qui est en complète ébullition, et ce sera mon dernier point, je ne voudrais pas être trop long, puisqu'il y a aussi... Oui, merci. Il y a aussi, chez les Juifs, ce qu'on appelle une attente messianique. Et j'ai essayé de préciser un petit peu ma pensée en vous parlant d'une attente messianique, mais aussi eschatologique. Alors, je ne sais pas si le terme, vous le connaissez. Quand vous avez un discours eschatologique, je vous donne un exemple très simple. L'Apocalypse de Jean, qui annonce la fin des temps, si vous voulez, qui annonce aussi ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire le retour glorieux du Christ, c'est ce qu'on appelle un discours eschatologique. Alors, une parenthèse très rapide. Vous voyez, et c'est un abus de langage, si je veux le dire comme ça, par rapport au texte de Jean de Patmos, parce que quand on dit l'Apocalypse de Jean, on oublie que Jean est originaire de Patmos. Je ferme la parenthèse. Le terme Apocalypse, en grec, ne désigne pas du tout la fin du monde. Apocalypse, en grec, ça veut dire quoi? La révélation. Voilà ce que Dieu a révélé aux hommes. Vous voyez? Et donc, les Juifs, eux aussi, si vous voulez, sont dans cette idée d'attente de quelqu'un qui viendra les libérer et qui pourrait s'appeler, le terme, si vous voulez, c'est Messie, on est d'accord? Et si vous cherchez la racine grecque, ou l'expression grecque, eh bien c'est Christ. Parce que Christos en grec, c'est celui qui est le sauveur. Mais en même temps, regardez, quand on essaie de travailler sur le vocabulaire, le terme Messie, ce ne sont pas les chrétiens qui l'ont inventé. Parce qu'on sait que le terme Messie, ça vient de l'hébreu Machia, qui veut dire celui qui est oint. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que dans la Bible hébraïque, et moi j'ai vérifié, dans la Bible hébraïque, par exemple, vous n'avez pas le terme Messie utilisé de cette façon. Messie est utilisé en tant qu'adjectif, ça signifie messianique. Alors, comment il faut comprendre ça? Ben, il faut comprendre qu'en fait, le terme Messie, ça désignait un roi ou un prêtre qui est consacré par l'onction de l'huile sainte. Alors, raccourci très simple. Il faut que vous compreniez, et je pense que c'est un élément important, et là je m'appuie sur ce que disait par exemple Augustin, les chrétiens ont piqué, je le dis entre guillemets, ont piqué dans toutes les religions ce qui leur semblait le plus adapté à leurs croyances. Un exemple très simple. Si vous prenez le terme Christ, vous voyez, le terme Christ, il n'a pas du tout été inventé par Jésus, c'est Paul. C'est-à-dire qu'en fait, Paul, si vous regardez dans les épîtres, Paul, c'est le premier auteur à avoir associé Jésus et Christ. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit Jésus-Christ, c'est un acte de foi. Et si on prend Paul, par exemple, Paul, moi, en tous les cas, je le vois comme ça, Paul, il faut vraiment qu'on le voit comme le fondateur du christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un christianisme, si je fais vite, du temps de Paul, un christianisme qui s'est hellénisé, vous voyez, c'est-à-dire un christianisme qui s'est hellénisé, c'est-à-dire qui a été influencé par la culture grecque, un christianisme ensuite qui s'est latinisé et romanisé. Donc, si je reprends un petit peu ce que je vous disais précédemment, c'est seulement au VIe siècle avant Jésus-Christ que le terme Messie, si vous voulez, va prendre cette dimension qu'on appelle eschatologique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, le Messie, c'est un personnage qui a été choisi par Dieu, qui viendrait restaurer Israël, je reprends la formulation, c'est donc seul Yahvé qui est capable de sauver. Et c'est très important, parce qu'on oublie très souvent que le christianisme, comme d'ailleurs le judaïsme, alors que dans l'Antiquité ça a vraiment peu de sens, c'est d'abord une religion du salut. D'où l'intérêt d'expliquer aux hommes ce qu'est l'après. Vous voyez, à travers l'Apocalypse, et l'Apocalypse c'est d'abord une révélation. C'est Dieu qui révèle aux hommes quelle sera la fin des temps, ce qu'on appelle aussi la parousie. Hein. Donc, si je résume, l'onction, vous voyez, à l'origine n'est qu'une forme de consécration d'un personnage terrestre qui témoigne du choix de Dieu en sa faveur. Et si vous regardez, par exemple, dans l'Ancien Testament, les deux premiers rois à recevoir cette onction, c'est Saul et David. Et je fais juste une parenthèse. Vous voyez, alors attention, je vais prendre beaucoup de pincettes, comme on dit, si Jésus est né à Bethléem et s'il est originaire de Nazareth, ce n'est pas le fruit du hasard non plus. Pourquoi? Parce que si vous prenez les rois juifs, ils sont tous, et notamment David, ils sont tous originaires de cette région. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends par là simplement de montrer que Jésus se situe en filiation avec le judaïsme, si vous voulez. Et si vous prenez Paul, et ça je pense que c'est très important, Jésus, il faut vraiment le voir comme un juif qui a voulu rénover le judaïsme. Paul de Tarse, il faut que vous le voyez comme quelqu'un qui est celui qui a fait la séparation entre les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Je fais très vite. Parce que Paul, on va plutôt partir de Paul. Paul, Il voit les chrétiens non plus comme le peuple élu, mais comme le peuple croyant. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ben, ça signifie que les juifs sont sauvés, vous êtes d'accord, parce qu'ils ont été choisis par Dieu. C'est le peuple élu. Pour les chrétiens, c'est la foi, c'est croire qui permet l'accession au salut. Et donc, vous voyez, les juifs en Palestine, c'est une petite minorité qui prétend, je le dis comme ça, qui prétend obtenir son salut parce que c'est Dieu qui les a choisis. Alors que les chrétiens, eux, voient dans leur religion, si on peut le dire de cette façon, dans leur secte, quelque chose d'universel. Le christianisme s'adresse à tous. Vous voyez ? Et c'est par la foi qu'on devient ou qu'on obtient son salut, c'est-à-dire, bon, pour résumer, comme vous voulez, soit la vie éternelle, soit l'accession au paradis. Alors, pour résumer, si on prend un petit peu cette idée de Messie, le Messie qui, pour les chrétiens, on est d'accord, est Jésus, c'est celui qui est qui est un roi, dans la lignée de David, et vous voyez là, et ne soyez pas choqués, on est en train de décrire ce qu'on appelle de l'idéologie. C'est un discours. C'est un discours qui s'est constitué après Jésus, donc a posteriori, vous voyez, entre autres par Paul et ses successeurs, qui nous présente Jésus comme celui qui est le Messie, c'est-à-dire celui qui est annoncé dans les Écritures, si vous voulez. Et en même temps, ce Messie, c'est celui qui est capable, non pas uniquement d'annoncer le royaume de Dieu, mais de mettre dehors les Romains. Vous voyez ? Donc, mettre dehors les Romains, mais aussi se débarrasser de ce fameux Hérode Antipas, qui était vu par les Juifs, et qui était vu par les Juifs comme un traître, mais aussi qui était détesté par les Juifs. Donc vous voyez qu'en fait, le Messie, c'est celui qui permettra de restaurer la monarchie d'Israël et d'établir un royaume terrestre de paix et de prospérité, mais débarrassé des Romains. Et donc en fait, tout ce discours, vous voyez, ce discours que vous trouvez en partie dans les évangiles, il a été écrit bien après. Parce que si on regarde un petit peu la chronologie, on peut imaginer que si Jésus est mort vers 30, s'il est mort à 33 ans, autour de 30, eh bien il faut attendre quoi ? Il faut attendre au minimum 50, 60 après Jésus-Christ, voire 100 pour les derniers textes, et évidemment ces textes ont été rédigés a posteriori. Et derrière, et ça c'est très important, vous avez tout le travail qui a été fait par les pères de l'Église pour construire une idéologie qui, si vous voulez, fait de Jésus le Messie. Parce que Jésus, de son temps, si vous voulez, ne prétendait pas être le Messie. Et s'il a été accusé de roi des Juifs par les Sadducéens, c'est parce que les Sadducéens, si vous voulez, voulaient absolument essayer d'imposer une unité dans le monde juif derrière Rome. Voilà. Mais je vous remercie.
Dans cette famille culturelle.
Eh bien, ça rejoint un petit peu ce que monsieur a dit, c'est-à-dire en fait, cette volonté déjà de revenir aux traditions, hein, je pense que ça c'est quand même un élément important, et puis peut-être aussi, mais ça c'est juste une hypothèse, peut-être par son milieu d'origine. C'est-à-dire qu'en gros, si on se tient à l'idée que son père était charpentier, hein, on peut imaginer qu'en même temps, les pharisiens, si vous voulez, ça englobait, alors là c'est pareil, je vais faire un anachronisme, mais tant pis, ça englobait l'idée d'une espèce de bourgeoisie. Hein. Et si je réponds en même temps à une autre question, le problème en même temps, c'est que, et moi ça me pose vraiment un problème, c'est que Jésus, on ne le connaît qu'avec les évangiles. C'est-à-dire qu'en gros, je ne dis pas qu'il faut se méfier des évangiles, hein, surtout pas avoir ce réflexe, mais en même temps, les évangiles, ils nous présentent un discours, si vous voulez, et je rejoins ce que disait monsieur, qui est adapté à la population qui est visée. C'est-à-dire que si vous prenez Luc, il s'adresse, par exemple, à des juifs hellénisés, qui peuvent le comprendre. Et en même temps, si on prend les évangiles synoptiques, je pense que c'est quand même un élément important, les trois évangiles dits synoptiques, ils ne décrivent pas exactement la même vision de Jésus, parce que si on regarde par exemple Luc, il insiste beaucoup sur cette notion de Messie. voyez, c'est-à-dire Jésus, le Messie, celui qui délivrera les Juifs, etc. etc. Donc il y a tout un élément qui est important, c'est le milieu, et en même temps, le problème qui se pose, c'est justement qu'on est obligé de travailler sur des textes chrétiens. Alors, je ne dis pas qu'il faut les rejeter, hein, surtout pas. Mais en même temps, il faut avoir bien en tête que derrière les évangiles, il y a aussi la volonté de décrire un Jésus qui est compréhensible par la population à qui l'évangile est destiné. Vous voyez, si vous prenez par exemple l'évangile de Matthieu, l'évangile de Matthieu, il est plus, comment dire, il est plus, il a plus été rédigé pour des gens qui sont des Hébreux, et dans le sens qui ont une culture araméenne. Vous voyez, inversement, si je prends Luc, lui, le discours, il est plus axé sur des gens qui sont hellénisés, qui parlent le grec, et qui peuvent comprendre la notion. Vous savez, moi je me suis toujours posé la question, par exemple, si vous prenez dans l'évangile de Pierre, bon, qui est un évangile apocryphe. Si vous prenez l'évangile de Pierre, il est écrit en grec. Moi, je me suis toujours posé la question, comment un pêcheur galiléen pouvait écrire, parler le grec? Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que quand on essaie de travailler ces textes, il faut avoir en tête que ces textes ont eux-mêmes été travaillés. Et pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont les évangiles synoptiques? Parce que si on les compare, on est d'accord, ils vont décrire la prédication de Jésus, et on va pouvoir essayer de retrouver un certain nombre de points communs. Mais en même temps, du fait que certains ont été écrits en grec, que d'autres ont été écrits en araméen, etc., etc., à des moments différents, c'est très très compliqué, parce que, et ça c'est quand même particulier, si on considère que Jésus est le fondateur d'une religion, il n'a rien écrit et il n'a rien dit de lui. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on connaît Jésus par les autres. Et les évangélistes, en même temps, et je ne vais choquer personne, on ne sait pas si c'est une personne ou ce sont des personnes qui ont écrit. Vous voyez ? Et le problème en même temps, et ça c'est un problème très important, c'est que l'Église, la hiérarchie, si vous voulez, je ne parle pas aujourd'hui, hein, mais au moment des conciles, a fait le tri dans les textes. Et vous avez des textes qui ont été enlevés, et si vous prenez les évangiles, clairement, si vous prenez les évangiles synoptiques, qu'est-ce qu'on remarque ? Mais on remarque qu'il y a beaucoup de correspondances, mais qu'il y a aussi d'énormes différences. Il y a des historiens qui ont fait ça, je crois de mémoire, ils ont trouvé plus de 1000 différences entre les différents textes. Vous voyez ? Donc, le problème, c'est qu'il y a... Il faut comprendre que les évangiles ont une histoire, et que vous avez aussi... Il faut voir, moi je le vois comme ça en tous les cas, il faut que vous voyez les évangiles comme un patchwork. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on a enlevé des choses... Il y a des choses qui ont été rajoutées. Vous voyez, par exemple, là je sors des évangiles. Si vous prenez Flavius Joseph, c'est tout sauf une source fiable. Pourquoi ? Parce que c'est quand même curieux, regardez, qu'un juif hellénisé, qui n'était pas forcément apte à reconnaître en Jésus le Messie, le fasse. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, les textes dont on a parlé tout à l'heure, ces textes, ils ont été retravaillés plus tard, et on connaît l'auteur. Eh bien, cet auteur, il s'appelle, et je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un auteur chrétien très important qui était un des proches collaborateurs, je le dis comme ça, de l'empereur Constantin, qui s'appelle Eusèbe de Césarée. Et Eusèbe de Césarée, comment est-ce qu'on le connaît ? Entre autres, il était évêque de Césarée en Palestine, justement, ça colle à notre sujet. Mais Eusèbe de Césarée, c'est aussi, et ça c'est très important, le premier à avoir écrit une histoire de l'Église. Vous voyez ? Or, Eusèbe de Césarée, si vous le connaissez, eh bien, vous regarderez, par exemple, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit. Vous voyez, si vous prenez Eusèbe de Césarée, c'est celui qui assistait au fameux débat, vous rappelez, sur la nature du Christ, donc qui était au Concile de Nicée. Et Eusèbe de Césarée, vous pouvez être sûr qu'il a fait une pression sur les évêques pour qu'ils votent pour définir Dieu, justement, en leur disant, rappelez-vous, c'est l'empereur qui nomme aux évêchés. Et si vous votez quelque chose qui ne convient pas à l'empereur, votre évêché, vous allez le perdre. Voyez ? Donc en fait, il faut bien comprendre que dans la formation de la religion chrétienne, vous avez des interventions politiques du pouvoir impérial. Et par rapport à, vous voyez, par rapport au texte dit canonique, donc, c'est-à-dire que l'Église reconnaît, moi je me suis toujours posé la question, regardez, si vous prenez par exemple la conversion de Paul, qui est raconté, entre autres, dans les Actes des Apôtres. Moi, je me suis toujours posé la question, comment Paul a-t-il reconnu la voix de Jésus sur le chemin de Damas, alors qu'il n'avait jamais vu Jésus et qu'il ne le connaissait pas? Vous voyez? Alors, la réponse, peut-être, c'est l'apparition, ça c'est la croyance, mais un historien va se poser la question. Vous voyez? Alors, donc, quand vous avez quelqu'un, à un moment ou à un autre, qui va mettre son grain de sel et qui va rajouter quelque chose, on appelle ça une interpolation. Ça veut dire tout simplement qu'on va prendre un texte qui a été travaillé, vous voyez, à des moments différents, et il faut voir les évangiles comme ça. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous avez un certain nombre d'évangiles que l'Église ne reconnaît pas. Vous avez un évangile de Marie, vous avez un évangile de Pierre. Vous avez un certain nombre de textes que l'Église a mis de côté, mais nous, en tant qu'historiens, on les utilise parce qu'ils nous permettent de comprendre comment s'est constituée la religion chrétienne. Vous voyez ? L'idée, alors, je le dis comme ça, et je fais vite parce que sinon on ne va pas s'en sortir. L'idée, c'est que moi, ce que j'essaie de faire avec d'autres collègues, on essaie un peu de déconstruire le discours et essayer de comprendre comment il fonctionne. Vous voyez ? Sans remettre en cause le fait que pour les chrétiens, les évangiles sont un texte de foi. Mais moi, je le dis comme ça, d'ailleurs, je me terminerai là. Rappelez-vous, la Bible, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre. Et c'est d'abord un livre d'histoire. Hein ? Et le problème, entre guillemets, c'est que, si on reprend par rapport à votre question, on pense que Jésus est un pharisien, mais, en même temps, on ne fait que des hypothèses. Vous voyez ? On s'appuie sur le fait qu'il veut rénover le judaïsme. Alors, rénover le judaïsme, ça sous-entend qu'il faut voir Paul comme un prédicateur, Jésus, comme un prédicateur. Paul était aussi un prédicateur. Mais si vous prenez Paul, quand il est arrivé dans les synagogues, vous pouvez être sûr qu'il y en a plusieurs qui ont voulu lui faire la peau. Hein. Quand il arrive, par exemple, à Éphèse, alors Éphèse, où il arrive et puis il dit que toutes les statues de la déesse sont de l'idolâtrie, vous pouvez être sûr que les marchands du temple ont voulu zigouiller. Hein, et qu'il a dû se cacher avec un certain nombre de ses disciples parce que les autres voulaient lui faire la peau. Hein, et ils voulaient lui faire la peau. Pourquoi ? Ben parce que, clairement, ils ne pouvaient plus vendre leurs statuettes. Hein. Et ça, je pense que ça, c'est quand même un élément très important. Les chrétiens ont été détestés. Hein, parce qu'ils remettaient en cause l'ordre impérial, on l'a dit avec le culte impérial, mais aussi parce qu'ils remettaient en cause les fondements de la romanité. Hein, et notamment le fait que les chrétiens, vous voyez, les chrétiens n'allaient pas au spectacle, les chrétiens n'allaient pas au théâtre, les chrétiens refusaient de porter les armes. Dans un empire qui était construit par la force militaire, vous pensez bien que ça pose un problème.
Hein. L'évangile de Jean.
Comment ? Oui, allez-y.
L'évangile de Jean.
Ah, l'évangile de Jean. Alors, la question c'était pourquoi...
Pourquoi le marqué synoptique a fait des apôtres ?
Ah, pourquoi ? Parce que dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de la Palestine. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous lisez l'évangile de Jean, vous n'avez pas d'éléments qui permettent de comprendre l'histoire de la Palestine, tout simplement. Donc en fait, le nombre de textes qu'on a, ils sont relativement très très limités. En sachant bien que les manuscrits de la Mer Morte, une grande partie aujourd'hui n'est encore pas connue, ou très peu connue. Hein? Alors il faudra attendre peut-être un certain nombre d'années pour que les manuscrits soient progressivement utilisables. Bon, on peut les trouver par exemple en ligne, un certain nombre, mais... ils sont importants. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent de comprendre dans quel contexte est né le christianisme. Hein ? Et vous savez, souvent, on le dit aux étudiants qui me regardent en me disant « Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ?» quand je leur dis que Jésus est juif. Hein ? Et ça, je crois que c'est un élément important. Dire que Jésus est un chrétien, ça n'a historiquement pas de sens. Vous voyez ? Même du temps de Paul. Parce qu'en fait, la première mention... aujourd'hui, on parle de la religion catholique, comme si c'était une évidence. Religion, c'est 193 après Jésus-Christ, c'est Tertullien. Je pourrais même vous donner les références, je les connais par cœur. Et puis, l'association avec Christianus, c'est Arnaud de Sica. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. C'est un père de l'Église du IVe siècle. Hein. Et la première mention de Christianus, c'est-à-dire la première fois que les chrétiens se sont désignés comme tels, c'est au milieu du second siècle à Antioche. Vous voyez ? Donc, dire que les chrétiens... que Jésus a fondé le christianisme, historiquement, ça n'a pas de sens. Donc, bien avoir en tête, dans un premier temps, et ça, je pense que quand Daniel Marguera viendra ici, je pense qu'il vous abordera peut-être ça de cette façon, Jésus n'est pas le fondateur de nouvelles religions. Il faut le voir plutôt comme quelqu'un qui a voulu rénover le judaïsme. Mais pour moi, je le dis, ça n'engage que moi, évidemment, hein, et je ne suis pas le seul, Paul, c'est le fondateur de la religion chrétienne, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, Paul a transformé le discours de Jésus, si vous voulez, qui est contenu dans les évangiles, pour l'helléniser. C'est-à-dire qu'en fait, Paul a fait entrer dans le discours chrétien des éléments que vous retrouvez dans la philosophie grecque. Vous voyez l'idée du Christ, par exemple. Hein, Jésus n'a jamais dit qu'il était le Christ. Pas ma connaissance. En tous les cas, il ne le dit pas comme ça dans les évangiles. Vous voyez ? Non, mais ça par rapport à ça, je suis d'accord. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, la Palestine au temps de Jésus, c'est le monde des traditions orales. Donc ça ne me choque pas que Jésus n'ait rien écrit. Vous êtes d'accord ? Par contre, par rapport à ce que disaient les deux dames, là, précédemment, bon, moi, je n'irai pas jusqu'à ce qu'un certain Michel Onfray a dit, vous avez peut-être entendu, où pour lui, Jésus, c'est un concept. Donc pour lui, Jésus n'existe pas. Au contraire, moi je pense qu'on essaie un petit peu de comprendre comment s'est constitué un discours, si vous voulez, un discours qui repose sur une idée importante, c'est que vous travaillez sur des textes. On est d'accord ? Ces textes, comme vous l'avez dit, sont des textes de foi. Et le problème, c'est que ces textes de foi, il faut les déconstruire pour les comprendre. Parce que derrière le discours chrétien, et ça je pense qu'il faut bien le comprendre, le discours chrétien est très élaboré, il s'est constitué de manière très précise, et il répond aussi à des objectifs, je rappelle, qui sont politiques. Bon, on a parlé de chasser les Romains, mais prenez les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ils vont vous faire, par exemple, prenez les discours de Tertullien au second siècle, où il se paye l'empereur de manière régulière, en disant « l'empereur est une menace pour les chrétiens, le sang est une semence pour les chrétiens », il l'a quand même écrit. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est appelé au martyr. Et si vous prenez inversement Augustin, qui dans la Cité de Dieu rappelle un petit peu justement cette idée d'accéder au salut, de la citoyenneté chrétienne, etc., etc., vous avez quand même un discours qui est idéologique. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas dire que Jésus est un idéologue, parce que ça n'a pas de sens, si vous voulez. Mais il faut comprendre aussi que la conversion de Paul, si on essaie de regarder le texte, il faut quand même se poser la question. Vous savez, des dieux qui apparaissent aux hommes, ce n'est pas spécifique aux chrétiens, ça a été bien dit. On est d'accord. Pensez aux Vestales, à la Pythie, etc., etc. Si vous allez à Delphes, les dieux parlent aux hommes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et si je poussais un peu le bouchon loin, je vous dirais que des messies, il y en avait plein l'Empire. Donc, l'idée qui est importante, c'est que si on considère que le texte chrétien est un texte uniquement de foi, on ne peut rien en faire. On ne peut rien faire, donc on ne peut pas faire d'histoire. Hein ? C'est-à-dire que si on ne comprend pas que les textes chrétiens, quels qu'ils soient d'ailleurs, ont été construits à différents moments, qu'il y a eu tout un travail idéologique qui a été mis en place. Vous voyez, je vous donne juste un exemple qui me vient à l'esprit. Il y a eu tout même au niveau du vocabulaire. Regardez, on dit souvent le chrétien est le serviteur de Dieu. Si vous prenez les termes latins, c'est servus Dei. Servus Dei, vous trouvez quoi ? Ben, vous avez l'expression servus Dei. Quelqu'un qui sera anticlérical vous dira esclave de Dieu. Très bien, exactement. Cherchez le mot. Esclave de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous allez chercher dans les poèmes d'Isaïe où on nous dit que que servus Dei, si vous voulez, on ne le traduit pas par esclave de Dieu, mais par serviteur de Dieu. Et regardez, quand on regarde en fait la religion chrétienne c'est quoi ? C'est un contrat entre Dieu et les hommes, on est d'accord ? Ce contrat fait que l'homme se place sous la dépendance de Dieu. Mais cette dépendance, ce n'est pas le fait d'être un esclave, c'est une dépendance spirituelle. Et qu'est-ce qui permet cette dépendance spirituelle ? C'est la foi. Or, si vous regardez dans les textes chrétiens, quand Tertullien parle par exemple de la foi, il utilise un terme qui est un terme latin, qui est fides. Mais la fides, ce n'est pas un terme que les chrétiens ont utilisé. C'est un terme de la société romaine. En fait, la fides, qu'est-ce que c'est? C'était la relation de clientélisme entre un maître et celui qui devient son client. Alors maître, dans le sens ici, à Rome, si vous voulez, vous aviez des relations de clientèle. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette forme d'organisation sociale pour définir ce qu'était la foi. Les chrétiens n'ont rien inventé. Dans le sens, les chrétiens se sont inspirés de la société dans laquelle ils vivaient. Mais c'est logique. Si vous voulez, si on prend la religion chrétienne, elle est née dans un univers qui s'appelle le monde romain. Donc il est logique que les chrétiens utilisent le vocabulaire, utilisent des termes qui sont aussi des termes employés par d'autres. Vous voyez, puisqu'on parlait de Saint-Augustin, Augustin dit bien, nous prenons les vases d'or de nos adversaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les chrétiens, ils ont pris aux Grecs, ils ont pris aux Romains, ils ont pris quoi? Des aspects philosophiques, ça c'est Paul. Tertullien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer le droit romain, par exemple, dans le discours chrétien, mais c'est un discours qui s'est construit. Donc si on part de principe que c'est un texte de foi et qu'on oublie que ce texte a une histoire, qu'il n'a pas été rédigé à un moment bien précis, mais à des moments différents, le texte, si vous voulez, c'est comme un déroulé. Et ce qu'on essaie de faire, nous, on essaie de reprendre à l'envers pour essayer justement de comprendre comment ce texte s'est constitué, comment est née la religion chrétienne, et en même temps, bien faire attention qu'on utilise des termes aujourd'hui qui, à l'époque, n'avaient pas de sens. Un exemple, dire que le christianisme est une religion au premier siècle, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que les chrétiens eux-mêmes ne considèrent pas qu'ils sont une religion, mais une secte. Or, si vous plaquez, vous voyez, si vous dites les chrétiens sont une secte, vous allez tout de suite avoir une connotation négative, et les chrétiens en tant que secte, ça veut dire les chrétiens forment une école de philosophie, dont le maître est Jésus. Mais école de philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une école de pensée, tout simplement. Et moi, ça ne me choque pas de dire que Jésus est un personnage historique. Après, tout le débat, évidemment, c'est de savoir s'il est fils de Dieu, quelle est sa nature. Est-il de nature humaine? Est-il de nature divine? Mais ça, ce n'est pas Jésus qui l'a tranché. C'est le concile de Nicée, au IVe siècle. Vous voyez? Pourquoi? Pour se débarrasser des Ariens qui tenaient un discours comme quoi Jésus n'était pas le fils de Dieu, mais un homme. Vous voyez? Et ça, je pense que c'est un élément important. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'histoire chrétienne, si vous voulez, c'est aussi un déroulé d'intervention du pouvoir politique dans les affaires de l'Église. Et en commençant par les empereurs. Et si vous regardez, puisqu'on parlait des textes canons, ce ne sont pas les premiers chrétiens du 1er siècle qui ont défini les canons, et notamment le canon des Écritures, c'est bien après, c'est au moment des conciles. Alors, je ne dis pas qu'ils ont fait des choix arbitraires, hein, je n'ai pas dit ça, mais ces choix répondaient aussi à des attentes du temps. Vous voyez, quand il faut contrer, par exemple, les Ariens, eh bien, ils vont condamner l'arianisme, d'ailleurs à la demande de l'empereur, et ils vont bien préciser que ce qu'on appelle tout simplement le Christ, Jésus est un homme, mais aussi il a un caractère divin. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle consubstantialité. Le Christ, si je l'applique comme ça, est de même nature. Et ça, je pense que c'est quand même très très important de bien comprendre qu'en fait, la religion chrétienne telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas la religion des premiers siècles. Parce qu'elle a une histoire. Et ça c'est quand même très important. Sinon, on ne fait que reprendre finalement un discours qui a été constitué par l'Église, on est d'accord, mais ça je ne le critique pas, mais c'est un discours qui est un discours qui répond aussi à des besoins, et notamment des besoins idéologiques, même si le terme peut parfois choquer. Le christianisme, et moi je m'arrête là, le christianisme, c'est d'abord pour certains une religion, mais c'est aussi un discours politique et religieux. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir en tête. Oui, mais alors, moi, je veux quand même répondre, parce que là, ce que vous dites, je suis d'accord, mais si vous prenez les chrétiens eux-mêmes, ce qu'ils disent, ils utilisent le mot fides. C'est-à-dire que si vous prenez Tertullien, je pourrais vous donner 10 000 exemples, Tertullien dit que la foi est un contrat. Et ça ne me pose aucun problème. Pourquoi? Mais parce que Tertullien, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. il va utiliser un terme pour désigner la foi en s'appuyant finalement sur quelque chose qui s'appelle le droit. Le droit canon de l'Église, il s'est élaboré comment ? Il s'est élaboré aussi dans un but, si vous voulez, de fixer un certain nombre de règles que le chrétien doit accepter et doit croire. Vous voyez, il y a quand même aussi une chose qui est importante. Si vous considérez que ce qui est dit dans les évangiles est la vérité, vous ne faites pas de l'histoire. Faites de la foi. Et moi, je ne suis pas contre ça. Mais vous ne pouvez pas comprendre le discours. Parce que si vous faites entrer votre foi dans le discours, vous allez... je suis d'accord avec cette idée d'alliance, etc. D'ailleurs, si on prend Paul, Paul dit bien, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. On est bien d'accord. Donc, cette séparation entre chrétiens et juifs, on peut quand même la dater. C'est-à-dire qu'en fait, si Paul... si vous prenez les épîtres de Paul, dans les épîtres de Paul, on a tout un discours, finalement, qui incite à cette séparation entre juifs et chrétiens. Oui, on est bien d'accord. Mais quand Paul arrive dans la synagogue et qu'il se ramasse un certain nombre d'insultes, c'est parce que les juifs... À Éphèse, il est plus que confit, là. Il a été obligé de se cacher pendant 3 mois, sinon les autres voulaient lui couper la tête. Alors.
Il y a une tension, mais le fond de la pensée de Paul, c'est quand même que nous sommes issus de quelque chose, que nous avons des preuves.
Ah ben on est d'accord, la filiation, elle est d'accord. Mais il y a...
Donc, si on ne peut pas relier, et que les promesses de Dieu durent toujours. Ça, je le dis clairement aussi.
Oui, mais là, madame, vous faites de la théologie, vous ne faites pas de l'histoire. Eh oui, mais vous faites de la théologie.
Oui, mais moi, ce qui me gêne, c'est que vous semblez ramener toute l'histoire de l'Église à des constructions, des discours qu'on a voulu faire pour arranger des affaires politiques ou autres. Et je trouve que c'est vraiment une réduction d'un regard historien, comme il pourrait y avoir une réduction philosophique.
Eh bien, écoutez.
Mais la religion, c'est pas ça, c'est pas une suite. Même si il y a des éléments historiques, c'est toujours été vécu dans les contextes qui ont évolué.
Parce que je sors de mon sujet, regardez. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la séparation entre chiites et sunnites n'est pas un problème politique ? C'est un problème religieux. C'est-à-dire que quand Daesh massacre des chiites, c'est pour des raisons religieuses.
Non mais qu'il y ait des déviations, ça n'enlève rien à l'origine et à l'essence même d'une religion.
Mais attendez, alors je vous renverrai à un bouquin qui est sorti il y a très très longtemps, qui s'intitule « Les premiers christianismes ». C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez simplement être chrétien au premier... Oh, allez, je vous donne un exemple. Être chrétien du temps de Paul, déjà ça n'a pas de sens, premièrement. Le terme chrétien, ils ne l'utilisent pas eux-mêmes. Mais en même temps, si vous regardez, et je pourrais vous faire toute la liste de toutes les hérésies qui ont été condamnées par l'Église, hein, je vous donne un exemple, et je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les Ariens, il faut quand même en parler. C'était quand même une partie très importante de la communauté chrétienne qui a été persécutée. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, si Jésus est un Dieu, comment c'est-il qu'il est mort sur la croix ? Oui, alors, pour la première, alors, pourquoi les chrétiens ne veulent pas pratiquer le service militaire ? D'ailleurs, je vous fais juste une remarque. À partir du moment où l'Empire devient chrétien, la majorité des chrétiens se rendent dans l'armée. On est bien d'accord. Donc, vous voyez, quand on parle... Ben, pourquoi ? Parce que, regardez, très rapidement, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Empire romain doit servir à, comment je pourrais vous dire ça, à faire que le christianisme se diffuse dans l'ensemble de l'Empire. Parce qu'en fait, quand on dit le christianisme se diffuse dans l'Empire, le christianisme est d'abord diffusé dans les villes. Et vous avez une grande partie des campagnes qui restent très très hostiles à l'abandon de la religion traditionnelle romaine. Et vous savez, quand, par exemple, l'empereur Théodose, en 380, décide de fermer les temples, ça, c'est la réalité, dans le sens, c'est une décision impériale que beaucoup vont refuser de faire, jusqu'à ce qu'on interdise la pratique de la religion traditionnelle romaine. Alors, pour répondre à votre question, bon, la première chose, c'est que les chrétiens, finalement, refuse un certain nombre de pratiques, si vous voulez, qu'ils considèrent comme contraires à leur foi, ou qu'ils considèrent comme de l'idolâtrie. Et parmi ces pratiques, il y avait entre autres, et ça c'est Tertullien qui le raconte, le fait par exemple qu'un chrétien avait été condamné à mort, un soldat, parce qu'il avait refusé de porter la couronne de laurier. Alors, pourquoi ? Ben parce que ça rejoint ce qu'on disait précédemment, ça rejoint l'idée du culte impérial. C'est-à-dire qu'en fait, dans le culte impérial, il y avait cette manifestation de respect et de fidélité à l'empereur que les chrétiens refusaient de pratiquer. C'est comme si aujourd'hui, si vous voulez, et c'est une image que je vais prendre, c'est comme si, vous imaginez, des chrétiens qui vont au monument aux morts et qui crachent sur le drapeau français. Il faut le voir comme ça. Hein, c'est-à-dire que pour eux, c'était porter les armes, se rendre au spectacle, participer à la vie de la cité n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Et à partir du moment justement où le christianisme devient religion d'État, et je rappelle, hein, si on regarde, par exemple, si on prend la conversion de Constantin, c'est d'abord quelqu'un qui le fait, d'abord et avant tout, pour des motivations politiques, parce qu'il a besoin de l'appui de l'Église pour arriver finalement à rétablir l'unité de l'Empire, en sachant que on vient de sortir des guerres civiles, hein, et on vient de sortir d'une période, si vous voulez, où à nouveau les impératores se sont affrontés. Hein. Et quand vous regardez par exemple le moment en 312, la bataille de Milius, où Constantin bat son principal rival, l'histoire des boucliers, du chrisme qui arrive sur les boucliers, si ça c'est pas de la propagande, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, hein, dans le sens qu'on sait très bien qui est derrière, on sait très bien que c'est Joseph de Césarée, hein, et on est quand même, je pense que le fait que ce soit une idéologie, moi ne me choque pas, parce que toute pensée humaine est une idéologie. Hein. Alors après, c'est sûr que ça va heurter ceux qui considèrent que c'est une religion révélée, mais on peut essayer d'ajuster les deux, c'est-à-dire rester sur la logique de dire j'ai des textes de foi, mais je maintiens, c'est pas parce que ce sont des textes de foi qui n'ont pas été travaillés et que derrière vous avez aussi tout un discours qui veut nous faire entre guillemets accepter en fait, comment je pourrais vous dire ça, le christianisme n'est pas né comme on dit ex nihilo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le christianisme est né dans un univers païen dans un premier temps, où les juifs ont un statut particulier, ça on en avait déjà un petit peu parlé, mais où, et ça c'est très important, le christianisme c'est d'abord un courant qui a combattu l'Empire, qui a combattu les juifs. Prenez Tertullien, il a quand même écrit un traité qui s'appelle « Contre les juifs ». Alors je ne dis pas que Tertullien était antisémite, hein, j'ai pas dit ça, qui a combattu les hérétiques. Et d'ailleurs, si vous prenez Tertullien, qui est quand même considéré comme un des pères de l'Église, il a quand même été mis dehors de l'Église. Pourquoi ? Ben parce qu'il appelait aux martyrs. Hein ? Et si vous prenez des textes de Tertullien, j'en ai déjà parlé à quelques-uns qui sont ici dans l'Assemblée, prenez ce qu'il dit sur les femmes, mais c'est une abomination. Hein ? Quand il dit, par exemple, à sa femme, il vaut mieux que tu meures en martyr que tu meures en couche, hein ? Et à quoi bon faire des enfants, puisque de toute façon, ils vont finir dans la tombe ? Voilà le discours. Hein. Alors aujourd'hui, on dirait que c'est un discours radicalisé, etc., etc., mais il faut en avoir conscience. Hein. Et quand je dis que c'est un christianisme de combat, ça veut dire que les chrétiens se sont battus par les idées, essentiellement, contre des gens qui les ont attaqués, que ce soit des penseurs païens, je pourrais vous donner plein d'exemples, ou des critiques qui venaient des juifs, etc., etc. Et le christianisme s'est souvent constitué contre les autres. Vous voyez, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont remporté la victoire, puisque l'Empire est devenu un empire chrétien. Et ça, c'est quand même un élément qui est très très important à avoir en tête.
Le fait que Jésus ait bien dit qu'il était le Christ lorsqu'il est interrogé par les religieux.
Oui, mais là, vous voyez, on arrive à une limite. C'est que je ne sais pas. Oui, mais je suis d'accord. Mais la question, c'est, est-ce que... Alors, comme Jésus n'a rien écrit, on en a déjà parlé, mais le problème, c'est que, est-ce que ce que vous dites, je ne le conteste pas, mais en tant qu'historien, je me poserai la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une interpolation ? C'est-à-dire quelque chose qui a été rajouté plus tard.
On met vraiment toute la Bible en question, alors.
Mais non ! Mais non ! Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les textes que vous avez devant les yeux, qui sont pour des chrétiens des textes de foi. Ce sont des textes qui ont fait l'objet de choix, de tri. On a enlevé des choses, on a rajouté des choses, et à des moments différents. Tout le problème, si vous voulez, c'est de bien comprendre que, déjà, il y a un tri qui a été fait entre tout ce qui est considéré comme canonique et tout ce qui est considéré comme apocryphe, dans un premier temps, mais pourquoi certains ont été retirés? Vous voyez, il y a eu des débats. Alors, je vais être un peu caricatural, c'est pas Dieu qui a dit, voilà le canon de la foi. C'est qui? C'est les conciles, ce sont les luttes entre les évêques, et d'où la politique. Mais justement, il ne faut pas.
Mais pourquoi c'est un théologique?
Mais moi, je ne suis pas un théologien. Mais ce que je veux dire, c'est que le terme idéologie ne doit pas choquer. C'est une pensée. C'est un courant de pensée. Pourquoi ça pose un problème? Oui, mais moi, attendez, justement, la théologie, c'est justement travailler sur le discours d'une autre façon. Un théologien, d'ailleurs je me suis déjà pris le choix avec eux plusieurs fois, pour moi il n'essaie pas de comprendre. Ah ben alors c'est pas de la théologie. Ah ben bien sûr, mais moi j'ai donné des cours à la faculté catholique de Lyon, de Dijon, dans un secteur qui s'appelait théologie. Ça pose aucun problème. Mais bien sûr, et c'est deux approches différentes, mais qui peuvent être complémentaires.